Un homme toujours activement recherché par les gendarmes, il conduisait un véhicule volé hier matin au Mont-d'Or et impliqué l'après-midi dans un accident qui a coûté la vie à une jeune femme à Canalhars. Au bonheur des collectionneurs, le salon qui leur était dédié a fait des heureux durant 3 jours à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Parmi les temps forts de la semaine qui vient, la visite annoncée du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, doit effectuer un déplacement de 2 jours en Calédonie. Autre venue, dans le ciel, la comète Tuchichan Atlas va captiver le regard des passionnés d'astronomie durant son passage à proximité de Vénus. L'actualité nationale avec le mondial de l'automobile 2024 qui se prépare à Paris. Plus de 400 modèles, 50 constructeurs seront réunis pour ce salon. Le sport du rugby pour la jeunesse avec les moins de 17 ans du club du Petit Train de Païta qui achève un tournoi de 7 disputé à Tahiti. Et le rugby sur la scène nationale avec Antoine Dupont dans une forme olympique. Il a célébré son retour sous le maillot de Toulouse avec 3 essais en top 14. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, au chapitre des interventions des forces de l'ordre, un automobiliste qui circulait sur la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis ce dimanche a été victime de caillassage, Léo Fichot.
Des jets de pierre cet après-midi, effectivement aux alentours de 14h30, qui ont fait un blessé. Du coup, au volant de sa voiture, l'homme roulait en direction de Ploumes et a été touché à la tête. Il a été, dans un premier temps pris en charge par les gendarmes, puis par les pompiers du Mont-d'Or avant d'être évacués vers le Medipol. Les auteurs de ces caillassages ont pris la fuite. On rappelle que les passages de la RP1 sont maintenus jusqu'à 18h, donc ils viennent d'être fermés pour aujourd'hui, et qu'à partir de demain, donc ce sera de 6h à 10h et de 14h à 18h.
On vous l'annonçait ce matin, l'homme qui circulait dans une voiture impliquée hier dans un accident ayant coûté la vie à une jeune femme à Canalhars était au volant d'un véhicule volé. Une voiture de société volée le matin même à Boulary, au Mont-d'Or, sur le parking des navettes maritimes servant à contourner la route de Saint-Louis. L'individu est donc toujours activement recherché par les gendarmes. Après la collision survenue ce samedi après-midi à la sortie de la tribu de Mia, la victime qui se trouvait dans l'autre voiture était une jeune femme d'une vingtaine d'années seulement. Le conducteur impliqué a pris la fuite à pied après le drame. Le salon des collectionneurs s'achève à la mairie de Nouméa. Après avoir ravivé des souvenirs et comblé le cœur de nombreux nostalgiques des objets d'antan ou simplement satisfaire les passionnés de collection. Depuis 3 jours, une trentaine d'exposants étaient présents pour présenter des collections éclectiques et échanger avec les curieux. Plusieurs milliers de visiteurs ont fait le déplacement. Pour les collectionneurs, cette édition 2024 est un succès.
Gérald, ah magnifique, même je dirais très émouvant parce que j'ai revu pas mal de copains d'enfance qui ont vécu cette époque des mobilettes et qui sont venus me voir et tous les souvenirs sont revenus, hein, l'époque des années 80. Donc ça, c'est fabuleux.
Inès, les cartes Pokémon et des objets Pokémon en général. Très, très positif. C'était très intense. Beaucoup de belles rencontres, que ce soit de jeunes collectionneurs ou des collectionneurs plus aguerris. J'ai fait de belles ventes et j'ai même pu faire des échanges de cartes aussi. Il y a des personnes qui souhaitaient compléter des collections ou tout simplement qui ont trouvé des cartes très jolies ou qui ont reconnu des Pokémon qui leur plaisaient, des Pokémon de leur enfance, par exemple. Donc oui, j'ai vraiment eu toutes sortes de collectionneurs qui se sont présentés.
Pascal, le président du club des fanats du Mérol, vous avez des avions à différentes échelles. Après, vous avez des canons, des camions, des avions. On a revu des gens, il y a des gens qui sont intéressés à venir nous rejoindre. On a vendu un peu de stock. On voit des amis, d'autres qui collectionnent autre chose. Donc, c'est bien, quoi.
Grande satisfaction également pour les organisateurs, dont fait partie Daniel Mirou, président du club philatélique Le Cagou.
Le salon 2024 a été un très très bon cru et on est vraiment très très satisfait, que ce soit Jean-Pierre Bosselaire ou moi, non, les deux co-organisateurs de ce salon. On peut que dire bravo aux exposants, bravo au travail qu'ils ont réalisé pour pouvoir montrer donc les expositions qu'ils avaient prévues. Et puis alors, merci aux visiteurs, parce que sans eux, ils ne payeraient pas de salon. Donc merci aux milliers de visiteurs qui ont arpenté les allées de ce salon pendant les 3 jours. Ça a été un bilan très positif. On a même été surpris par le nombre de visiteurs que nous avons eu cette année. Je crois que c'est un des salons qui a été le plus achalandé depuis l'origine. Dans les exposants, il y a eu 2 stands qui ont vraiment été appréciés. C'est celui sur les sucres. Ça a été vraiment une découverte pour beaucoup de visiteurs, de voir qu'on pouvait faire des collections de sachets de sucre, d'emballages de sucre. Et puis alors, la présentation des mobilettes, ça, ça a été un réel plaisir pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, je dirais peut-être davantage, mais aussi des jeunes sont intéressés de voir depuis le vélo Solex, depuis les premières mobilettes jusqu'au dernier vélo moteur. Ça a été une grande satisfaction pour les uns et pour les autres de pouvoir un peu se replonger un peu dans un passé qui n'est pas si ancien que ça, tout compte fait, mais qui néanmoins fait partie maintenant de l'histoire.
Daniel Mirou, co-organisateur de ce Salon des collectionneurs. Il s'agissait de la 24e édition, un rendez-vous organisé en partenariat avec RRB. Sur la côte ouest, bilan positif pour le marché de Mamy à Farino. Les visiteurs étaient nombreux à s'être déplacés dans la commune pour faire le plein de produits frais ou transformés. Ghislaine Arly, la responsable du marché, estime que les visiteurs ont trouvé leur bonheur et que les exposants sont repartis avec de beaux souvenirs.
Très positif et ça s'est très bien passé. Nous avons eu beaucoup de monde. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens étaient très heureux de venir se promener sur Farino, de venir faire en même temps la balade et profiter des produits que nous leur proposons. Tout s'est bien passé, une très bonne ambiance, des échanges, des partages, des rencontres. Il y a eu de très bonnes ventes, il y avait beaucoup de produits, notamment pas mal de légumes, hein, parce qu'il y a encore heureusement pas mal de légumes sur la région de la Foix. Donc tout le monde est parti avec son bonheur, beaucoup de produits, donc beaucoup de possibilités de trouver son bonheur. Donc tout le monde était très heureux et ça s'est pas bien passé.
Voilà des propos recueillis par Kélinda Boicou. Le prochain marché de Mamy à Farino aura lieu le dimanche 10 novembre.
RRB 17h52.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Et tout d'abord, la venue annoncée du ministre chargé des Outre-mer sur le territoire du 16 au 18 octobre prochain, Léo Fichou.
Ce sera le premier déplacement de François-Noël Buffet depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Le ministère des Outre-mer a indiqué par voie de communiqué que cela témoigne dans le contexte difficile que connaît le territoire du soutien et de l'engagement total du gouvernement auprès de l'ensemble des Calédoniens. Cette visite ministérielle s'inscrit dans une démarche de soutien et d'accompagnement des acteurs mobilisés dans la crise, d'une particulière gravité que rencontre la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai dernier. Le ministre vient également expliciter l'annonce du Premier ministre de reporter les élections provinciales à 2025. Ce voyage, prévu donc de mercredi à vendredi, comportera plusieurs séquences au cours desquelles François-Noël Buffet rencontrera l'ensemble des forces vives calédoniennes, des échanges et des visites de terrain seront également au programme du ministre des Outre-mer.
Parmi les temps forts de la semaine qui vient, c'est jeudi que débutera à l'université une conférence dédiée au PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction.
Lors de cette conférence, Louis Mapou, président du gouvernement, prononcera un discours en présence notamment du haut-commissaire Louis Lefranc. Une conférence qui prendra fin le lendemain. Louis Mapou annoncera alors les perspectives du PS2R. Mardi matin, les élus du Congrès seront eux réunis en commission plénière avec alors ordre du jour l'examen du projet de loi de pays relative au domaine public de l'eau et à la protection de la ressource. Et puis un rendez-vous concernant les nouvelles technologies, l'événement SoTech, So Good Outre-mer French Tech Days 2, dédié à la French Tech des Outre-mer et du Pacifique. Il se déroulera durant deux jours, mercredi et jeudi, au Château Royal à Nouméa. Son objectif, réunir et fédérer les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique, mais aussi valoriser les start-up.
La semaine prochaine, ce sera aussi la semaine mondiale de l'allaitement, une problématique qui touche de nombreux nourrissons. La province Sud, en partenariat avec l'association SOS Allaitement, mettra en place des rendez-vous d'information. Vendredi, ce sera le lancement officiel de la traditionnelle Fête de la Science 2024.
Un événement qui cible principalement les collégiens et les lycéens en partenariat avec le vice-rectorat et coordonné par le consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Le thème cette année, Océan de savoir. De nombreuses actions sont prévues jusqu'au 28 octobre. Enfin, le week-end prochain, dernier week-end de cette période de vacances scolaires, le salon Nature, Maison et Déco prendra ses quartiers sur le site du parc Brunelé à Nouméa. Vous retrouverez également le marché vide-grenier de Dumbéa au parc Fayard. Et puis côté sport, en voile, ce sera cette semaine la phase finale du trophée des jeunes marins organisé par le Cercle Nautique Calédonien à Nouméa jusqu'à vendredi.
On rappelle les mesures annoncées par le Haut Commissariat face à la crise insurrectionnelle, Léo Fichot.
Le couvre-feu est maintenu jusqu'au lundi 21 octobre inclus. La mesure mesure en vigueur depuis le début des exactions est maintenue de 22h à 5h. La vente de boissons alcooliques reste, elle, soumise à condition de 8h à 18h du lundi au jeudi et de 8h à midi le vendredi. Les quantités restent les mêmes, 4 litres de bière ou de cidre par personne, 2 litres d'alcool compris entre 9 et 22 degrés ou bien 1 litre pour les alcools forts par jour et par personne. À noter que la consommation d'alcool sur la voie publique reste interdite jusqu'au 3 novembre. Le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu, tout comme la vente au détail et le transport de carburant, produits combustibles et corrosifs, sont interdits jusqu'au 21 octobre. Par ailleurs, les rassemblements, défilés et cortèges, à l'exception toujours des marchés habituels et des manifestations sportives, restent interdits sur les communes du Grand Nouméa jusqu'à la même date.
Des infos pratiques, également noter que l'inauguration de la nouvelle station mobile de Magenta Aérodrome aura lieu mardi. À Kouaoua, en raison des travaux de sécurisation de la serpentine de la SLN, la circulation sur la route municipale numéro 7 sera perturbée avec une signalisation spécifique mise en place dès demain et ce jusqu'à la fin du chantier. Et puis à Nouméa, les piscines municipales de Rivière-Salée et du Wentoro réouvriront leurs portes au grand public après la fermeture pour travaux. Vos rendez-vous d'antenne demain matin, c'est Bastien Van Den Dijk, directeur de cabinet de la présidente de la province sud, Sonia Baquès, et spécialiste des relations internationales, qui sera notre invité du matin. Il sera dans nos studios à 7h30 sur RRB. Et puis à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Eddy Lecourieux, le maire du Mont-d'Or, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Une émission à retrouver également en intégralité en podcast audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Pour les amateurs d'astronomie, un rendez-vous céleste à ne pas manquer. Depuis plusieurs jours, la comète Tuchichan Atlas est plus nettement visible. Ce sera le cas encore dans la semaine qui vient. Dans notre hémisphère, la comète pourrait être aperçue depuis la Nouvelle-Calédonie. Écoutez les précisions de Lionel Sabot, membre de l'Association calédonienne d'astronomie.
C'est une comète qu'on verra dans le ciel. Vraisemblablement, c'est une comète que l'on verra dans les jours qui viennent dans le ciel. Alors, c'est une comète qu'on voyait déjà il y a quelques jours, qui a été aperçue en Calédonie par plusieurs membres de l'Association calédonienne d'astronomie, mais elle était visible très tôt le matin. Maintenant, ça devient un peu plus facile pour le commun des mortels d'observer cette comète, puisque c'est le soir après le coucher du soleil. J'ai fait une petite simulation sur mon ordinateur à l'instant avant de vous répondre pour voir un petit peu où elle était placée en fonction des jours. Alors elle est clairement à l'horizon ouest, il faut regarder en direction du coucher du soleil. La problématique, c'est que dans les jours qui viennent, c'est une comète qui sera très basse sur l'horizon, donc il va falloir avoir un horizon ouest très dégagée pour essayer de l'apercevoir. Elle sera un peu plus haute à partir de jeudi prochain. Mais sera-t-elle visible à l'œil nu? Il faut l'espérer parce que c'est un joli spectacle. Peut-être s'équiper d'une petite paire de jumelles pour pouvoir l'observer après le coucher du soleil. Donc, au coucher du soleil actuellement, vous voyez une étoile qui brille très fortement. Alors, c'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. La comète se situera plutôt sur la droite de Vénus quand on regarde le ciel. C'est un petit jeu qui va intéresser les astronomes amateurs et puis peut-être aussi tout simplement les Calédoniens d'essayer de trouver cette comète dans le ciel du soir.
Lionel Sabot, membre de l'Association calédonienne d'astronomie, la comète Tuchichan Atlas qui tient son nom des deux premiers sites astronomiques l'ayant observé, le premier en Chine en 2023, le deuxième en Afrique du Sud. 17h passées de 58 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de voir ce qui fait l'actualité nationale et dans le monde. À tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Et la suite du journal avec vous, Michael Juneski.
L'actualité nationale. Une cérémonie se déroulera ce soir en hommage au professeur Dominique Bernard, poignardé dans son établissement scolaire d'Arras il y a un an, jour pour jour, par un ancien élève d'origine russe, devenu par la suite islamiste radicalisé. Plusieurs ministres seront présents, dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais aussi des habitants du village de Dominique Bernard qui tiennent à se remémorer le jour où le professeur s'est interposé pour protéger d'autres élèves.
Forcément, ça remémore le moment, tout ça, même si on y pense quand même tout le temps, là, c'est vraiment le jour anniversaire, donc il faut être là pour sa mémoire.
On ne sait pas, il n'y a pas beaucoup qui l'auraient fait, mais lui, en faisant ça, bon, il perd la vie, mais à côté de ça, il a sauvé combien d'élèves. Pour moi, c'était une belle personne, quoi, courageuse, et puis bon, je pense qu'on ne l'oubliera pas.
Dès qu'il y a des manifestations, les gens demandent des nouvelles de la famille, comment vont sa femme, ses filles, etc. Et pas une attention malsaine, c'est plutôt bienveillant, c'est savoir comment va sa femme, est-ce qu'elle a pu reprendre le travail, est-ce qu'elle arrive à le se reconstruire, mais il y a vraiment quelque chose de bienveillant.
Dominique Bernard, qui avait trouvé la mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans son établissement scolaire, il était âgé de 57 ans. En bref, des gendarmes pris pour cible lors d'une manifestation non autorisée dans la région de Bordeaux. Des militants se mobilisaient contre un projet de construction d'une ligne de TGV. Les tensions sont très vite apparues. Des éléments radicaux, vêtus de noir et cagoulés, se sont mêlés à la marche et ont attaqué un véhicule des forces de l'ordre dans lequel se trouvaient quatre gendarmes. Un hélicoptère a également été visé par un tir de mortier d'artifice. En Martinique, la situation reste tendue mais semble aller vers une amélioration. Le quotidien des habitants de l'île, de l'arc caribéen, reste marqué par la peur avec des pillages, des violences et des bandes organisées qui érigent des barricades, souvent des membres appartenant à des gangs sévissant de longue date en Martinique. 32 interpellations ont été réalisées ces derniers jours, mais 12 blessés légers sont à déplorer parmi les forces de l'ordre. Quelques 150 véhicules ont par ailleurs été brûlés, ainsi que 14 locaux commerciaux incendiés. Écoutez les témoignages de ces Martiniquais victimes aujourd'hui de ces violences urbaines et de ces exactions.
Ah oui, je suis un peu en colère parce que même si on parle de la vie chère, mais mettre le feu à un magasin, piller les magasins, ça n'arrange pas les choses. Et je ne sais pas s'ils réalisent ce qu'ils font. Parce que je suppose qu'ils ont leurs parents, puis il y a la famille qui doit travailler dans ce supermarché.
J'arrive ce matin, mais je suis en chômage. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est difficile. Pour moi, je vois que je ne peux plus travailler, je ne peux plus payer mon loyer, je ne peux plus rien faire.
Un contexte de violence bien loin des premières manifestations contre la vie chère de septembre dernier en Martinique. Si la protestation a dégénéré et échappé au contrôle des syndicats et des collectifs, les négociations continuent sur le sujet d'un alignement des prix en Martinique avec la métropole. Un rendez-vous d'antenne, c'est Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité, qui sera cette semaine l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Une émission à retrouver sur notre antenne demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. À l'international, en bref, la guerre au Proche-Orient. Alors que le Hezbollah a tiré plus de 300 projectiles vers Israël durant Yom Kippour, jour le plus sacré du judaïsme, un casque bleu a été blessé, lui, par des tirs israéliens dans le sud du Liban. Le cinquième membre de la force de sécurité de l'ONU à être touché en deux jours. Au moins 40 pays ont apporté leur soutien complet à la force intérimaire des Nations Unies déployée dans le pays. Emmanuel Macron a également exhorté le Hezbollah libanais à cesser immédiatement les frappes contre Israël. Le président français s'est entretenu au téléphone avec le président de la Chambre des députés du Liban. Le mondial de l'auto débute mardi à Paris, un événement international qui avait connu des éditions compliquées ces dernières années. Mais 2024 sera placé sous le signe du renouveau. Le plateau s'annonce riche pour cette 90e édition. Une cinquantaine de constructeurs seront présents avec plus de 400 modèles exposés, dont des voitures hors normes, parfois des concept cars, mais aussi des véhicules qui seront bientôt sur les routes. C'est par exemple le cas du groupe français Alpine qui montrera pour la première fois son futur coupé sportif fabriqué en France. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Sur le stand d'Alpine, elle devrait attirer les regards. La 390, dans sa version bêta, couleur proche du classique bleu alpine, sportive, plutôt coupée que SUV, qui sortira de l'usine de Dieppe en 2025. Sovani Yang, vice-présidente produit performance de la marque.
C'est une voiture que l'on a voulu polyvalente, mais extrêmement sportive. Et donc, on l'a décrit comme un sport fastback. Ça nous permet de décrire la ligne du toit avec l'aérodynamisme de la voiture en plongeant d'une ligne continue.
Le modèle que les visiteurs pourront découvrir propose un cockpit futuriste proche de l'esprit Formule 1. terrain. Pas de tableau de bord, mais trois lames de verre qui créent un effet holographique.
Nous, on voit le futur, mais c'est pas facile de pouvoir l'expliquer aux clients sans support. Et donc, le showcar nous permet de montrer ça un petit peu en avance.
Renault, de son côté, va présenter Emblème, un démonstrateur des innovations technologiques qui permettront d'atteindre le zéro carbone en 2040. Citroën a également promis un showcar exceptionnel. Et ce sera une surprise.
Aurélien Fleureau pour Europe 1, le mondial de l'auto qui débutera donc mardi, porte de Versailles à Paris.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Marais, c'est le 101.5.
Dans le Pacifique, les autorités samoanes ont annoncé que d'importantes quantités de carburant s'échappent des réservoirs du Manawanui, ce navire hydrographique de la marine néo-zélandaise qui a pris feu et coulé il y a une semaine après avoir heurté le récif qui l'analysait au large de l'île d'Upolo. Les détails avec notre correspondant régional Jean-Pierre Zajac.
D'après la commission samoane des pollutions marines, plus de 200 000 litres de carburant se sont déjà échappés des réservoirs du Manawanui, qui gît maintenant par 35 mètres de fond. Le récif qu'il analysait au moment de son naufrage a quant à lui souffert et des animaux marins tels que tortues ont déjà succombé après avoir été emprisonnés dans la nappe de mazout qui s'est formée à la verticale de l'épave. Des plongeurs de la marine kiwi ont confirmé quant à eux que du diesel s'échappe des trois déchirures que la collision du navire a causées au niveau de ses réservoirs. Des opérations de pompage vont maintenant avoir lieu afin de vider les cuves éventrées avant que le reste de leur contenu ne s'en échappe complètement. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 18h06, une page de pub avant de voir tout le sport et balle de match pour le volley calédonien qui se relance après les mois de la violence pour ramener la jeunesse vers les terrains.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et tous les sports, Mickaël Juneski.
Du volley en Calédonie et ce week-end, un tournoi était organisé à Païtal et au Fichou.
Oui, un tournoi interclub mis en place par le comité Province Sud Volleyball, le deuxième après celui organisé à la fin du mois de septembre. Depuis hier matin, 18 équipes ont défilé sur le parquet de la salle Omnisport de Païtal, 12 équipes hommes et 6 équipes femmes. Evelina Menango est chargée de communication au comité Province Sud de Volleyball.
L'idée après ces événements, c'était vraiment de se retrouver sur un calendrier glissant. Et c'était compliqué quand même de mettre en place un championnat complet. Alors on est parti sur des petits tournois. Tout dépend des salles, des mairies aussi. L'avantage avec ce tournoi, c'est que c'est ouvert aux loisirs, aux élites, aux premières divisions et aux surclassés. Du coup, les cadets ils peuvent aussi participer.
Et le plaisir est partagé par tous les joueurs et toutes les joueuses des cadets aux seniors.
Ça nous fait du bien de se retrouver, d'échanger autour d'un ballon, des valeurs du sport et du volleyball. Sur une formule dégradée surtout, parce que ce n'est pas un championnat régulier, c'est des formules un peu plus décontractées. Ça fait beaucoup de bien aux jeunes surtout, parce que c'est l'occasion de faire pousser les jeunes à jouer avec les seniors. Surtout.
Énormément, ça fait du bien de reprendre un peu le volley, surtout avec tout ce qui s'est passé, avec les émeutes. Ça fait du bien de revoir tous les clubs. Partager l'envie de jouer au volley, de taper, réceptionner, défendre. C'est du bien. Et ça fait du bien de jouer contre les petites parce qu'on voit que plus les grands montent, mais les petites, ils évoluent aussi.
Et puis, ici, c'est un endroit où on fait abstraction de tout le reste, tout ce qui est politique et compagnie. Donc, on kiffe, on fait que kiffer le moment.
Le tournoi interclub organisé donc par le comité Volleyball Province Sud s'est achevé à 17h, mais d'autres seront programmés d'ici la fin de l'année.
Hors du territoire du rugby, avec le petit train de Païta, actuellement en déplacement à Tahiti, Léo.
Les U17 du club participent ce week-end à un tournoi international de rugby à 7 à Papeete. Un déplacement de 8 jours en Polynésie française, programmé depuis octobre 2023 déjà, et qui devrait se renouveler tous les 2 ans. Les jeunes ont donné de leur temps pour récolter de l'argent, avec notamment des ventes de repas. un voyage culturel, pédagogique et sportif pour Frédéric Dos Santos. Il est éducateur au rugby club de Païta.
Ça permet à nos jeunes de découvrir vraiment la Polynésie. On avait la plupart, 80%, qui ne seront jamais sortis de Nouvelle-Calédonie. Et après les événements que nous avons tous subis, ça permet à ces jeunes vraiment de se vider la tête et de voir vraiment autre chose et de découvrir avec le sport qu'il existe autre chose ailleurs. C'est vraiment fabuleux ce qu'on peut faire vivre aux jeunes. On est parti deux jours sur Montréal, on a rencontré un club de rugby là-bas, on a pu faire une excursion aussi ici avec le club de rugby de Pirée. Voilà, on a pu faire des entraînements en commun. Les gamins, ils sont fou, ils découvrent ici la compétition, vraiment le niveau de la compétition. On assiste à des matchs de très très haut niveau avec des équipes internationales qui proviennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de France et toutes les équipes locales qui se disputent vraiment la première place.
Et sur le terrain, justement, ça s'est plutôt bien passé pour le RC Païta, le tournoi qui a commencé hier avec les matchs de poule. Une première victoire 24-5 face à Païta. Une défaite ensuite sur le score de 12-20 contre l'entente Piraefa et Païta, puisque dans cette équipe, il y a 4 joueurs du club calédonien. Et enfin, une victoire 35-5 sur Papeete pour terminer. Ce soir, malheureusement, les joueurs de Frédéric Dos Santos se sont inclinés en finale 17-14. Mais à noter tout de même que Gabriel Piron, joueur de Païta, a été élu meilleur joueur du tournoi.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Allez, rugby toujours sur la scène nationale et le Stade Toulousain avec un Antoine Dupont XXL a largement dominé Clermont ce matin.
Et oui, une victoire 48-14 du Stade Toulousain grâce à un essai déjà du Calédonien Peato Maobaka, mais surtout grâce à un triplé d'Antoine Dupont. Le champion olympique de rugby à 7 cet été à Paris était remplaçant pour son retour. Il est entré en jeu en seconde période et a inscrit 3 essais en seulement 9 petites minutes. On écoute l'international tricolore.
J'ai bien profité des vacances, mais à chaque fois que je revenais à l'entraînement un peu avec les copains, ça donnait envie d'être sur le terrain le week-end. Je savais que j'aurais une bonne période pour récupérer, qu'après je pourrais m'y remettre pleinement. Donc c'est pour ça que je suis arrivé avec de l'enthousiasme lundi à l'entraînement et de commencer par un match comme ça où il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de mouvement, beaucoup de contenu aussi de notre part, ça fait plaisir.
La victoire donc du Stade Toulousain 48-14 contre Clermont. Large victoire aussi cette nuit, la nuit dernière, de l'Aviron Bayonnais sur le Stade Rochelet. C'est une surprise à 37-7. L'Union Bordeaux-Bègles s'impose 66-12 contre l'USAB. Victoire de Montpellier sur le fil 26-24 sur le promu Vannes. La section paloise a dominé le Castres Olympique 33-26. Pour rappel, en ouverture, le Racing 92 a battu Toulon 22-6. Et puis dernier match de cette sixième journée de Top 14, ce sera demain matin entre Lyon et le Stade Français.
Allez, du rugby toujours, mais au féminin. Et la défaite 39-14 de l'équipe de France dames avec les Sœurs Féléou contre la Nouvelle-Zélande ce matin dans le cadre de la dernière journée du Women 15. Ça se passait au Canada. Et puis on termine avec du tennis et la finale du Masters 1000 de Shanghai. C'est ce soir, Léo Fichaud.
Ce soir, oui, à 19h30, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, sera opposé à Novak Djokovic, vainqueur à 4 reprises du tournoi de Chine déjà. Le Serbe a l'occasion de remporter son 100e titre en carrière, tandis que Jannik Sinner pourrait lui signer sa 65e victoire de la saison.
Merci Léo Fichaud, 18h passées de 12 minutes, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pour cette nuit, des nuages s'attarderont sur le nord-est et l'extrême nord en donnant des averses isolées. Des paquets nuageux circuleront, loyauté, et d'autres gagneront la pointe sud en fin de nuit. Ailleurs, le ciel sera peu nuageux ou voilé par des nuages élevés. La disée de sud-est s'établira entre 15 et 20 nœuds, voire sur l'extrême nord-est à plus de 20 nœuds en fin de soirée. Sur l'île des Pins et la pointe sud, il sera proche des 15 nœuds, voire moins en soirée. Et les minimales seront stationnaires ce soir sur le nord et en baisse sur le sud et marée, souvent comprise entre 15 et 18 degrés. Elles atteindront 19 à 21 degrés sur la pointe nord et localement 12 à 14 degrés sur le sud-ouest. Demain matin, les nuages s'attarderont sur l'extrême sud et Belep où quelques gouttes resteront possibles. Sur le reste du territoire, le soleil sera majoritaire, bien que voilé par les nuages élevés. La lisée de sud-est se rapprochera des 20 nœuds, voire 20 à 25 nœuds sur l'ouest et sur le sud-est et la région de Point-Gamme où des rafales dépassant les 30 nœuds seront attendues. Et sur l'île des et l'extrême sud, il restera un cran en dessous avec environ 15 nœuds.
Merci Maxime, il est 18h passé de 14 minutes, c'est la fin de cette édition.